Je sais pas si cette année vous avez vu passer ce bouquin sur les bullshit jobs ou les jobs à la con. Et peut-être même que vous êtes en ce moment même dans le métro en train de rejoindre votre job et vous vous dites, ben, moi j'en suis pas si loin. Eh ben, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec Guillaume-Olivier Doré, qui est le fondateur de mieuxplacé.com, et qui a créé plusieurs boîtes, sept boîtes, et qui n'a en cette boîte, jamais perdu un salarié parce qu'il a trouvé justement une méthode de management différente et qui prend en considération l'émotion. Il va parler du système organique et comment on peut gérer une boîte de manière différente. Et je trouve que c'est intéressant parce que trouver du sens et le retour de l'émotion, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très fort. Pendant des décennies, au XXe siècle, on est resté dans un système très pyramidal. Et performatif, et on se rend compte aujourd'hui que ce système-là ne fonctionne pas ou plus trop. Donc c'est de ça dont on va parler avec Guillaume Olivier. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à tous. Je suis avec Guillaume Olivier Doré. On se connaît parce qu'en fait, on a travaillé ensemble sur ta société qui est mieuxplacé.com. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de ce bouquin qui est sorti cette année qui s'appelle Les Bullshit Jobs, en français les jobs à la con. Et il semblerait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui en pâtissent, on va dire, qui aient la sensation d'avoir un job à la con, justement. Pour toi, d'où est-ce que ça sort, ces jobs à la con? Pourquoi les gens se sentent aussi perdus dans leur job au quotidien?
L'humain est redevenu un peu le centre un peu de ce que cherchent les gens aujourd'hui quand ils travaillent. Voilà, effectivement, il y a quasiment, je crois, 70% des gens qui pensent qu'ils ont un bullshit job, donc ils font un job à la con. C'est quand même triste de faire ça toute la journée. Il y a l'avènement des réseaux sociaux, le fait que les gens ont besoin de se sentir impliqués dans leur boulot, de contribuer, en tout cas de pouvoir montrer qu'ils contribuent. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. Et on a créé une société avec des entreprises dans lesquelles l'organisation est totalement pyramidale, avec un chef qui décide, des gens qui exécutent sans trop réfléchir, qui est bourré de process. Et les process, c'est probablement ce qu'il y a de pire pour ces gens-là. Donc les gens ne connaissent pas le sens, ils savent pas ce qu'ils font, ce à quoi ça sert. Donc, ils sont dans une position forcément déceptive. Ils peuvent pas être fiers de leur job. Et c'est de pire en pire. Et donc, on a la création de ces bullshit jobs où les gens se disent, à quoi je sers? Je peux pas être fier de ce que je fais. Je peux pas parler de ce que je fais. Et je me considère comme totalement inutile.
Mais c'est vrai que, enfin, je pense que c'est une erreur un peu de la fin du XXe siècle. On était vraiment dans une société très performative et du coup, on a considéré que pour performer, il fallait vraiment, enfin, ce que tu expliquais,
C'est un
structurer.
modèle froid, oui, très
C'est
froid.
un modèle qui est très
Vraiment
froid. On
très
a
froid.
structuré de manière pyramidale, etc., qui en fait génère très peu de liens sociaux.
Il
En
n'y a
fait,
pas
devenir.
d'humain non plus, il n'y a rien,
C'est
il n'y a pas
ça.
d'humain. On est vraiment dans les process purs et durs. Et dans le secteur de la finance, c'est particulièrement sensible. C'est un secteur que je connais très bien depuis très longtemps. C'est absolument dramatique. On est dans un monde de process. Donc les gens exécutent des tâches, on a taylorisé leur métier, et c'est absolument horrible, parce qu'ils ne savent pas du tout ce à quoi ça sert. Ils récupèrent une information, ils en transmettent une différente, ils ont fait leur boulot. Le problème, c'est que le soir, ils ont rentré chez eux, ils sont pas en très bon état.
Ils ont un titre et ils ont un salaire.
Ils ont vaguement un titre qui veut plus dire grand-chose aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans un monde de titres, on est dans un monde justement où les gens se disent, je me débarrasse de mon titre et je vais pouvoir être fier de ce que je fais à l'extérieur, je vais pouvoir incarner mon boulot. Les gens incarnent plus leur boulot, ils sont dans une position de subir leur boulot.
Mais il y a cette phrase qui dit, au XXIe siècle, on veut plus réussir dans la vie, on veut réussir
Sa
sa
vie,
vie. Et ça change
exactement.
quand même pas mal de choses. Vas-y, vas-y.
C'est ce qui a beaucoup changé depuis quelques années. Moi, je l'ai constaté dans les différentes sociétés que j'ai créées. C'est qu'effectivement, les gens veulent participer à un projet où ils réussissent avec la boîte, avec l'équipe, avec l'écosystème. Ils veulent y contribuer et y mettre leurs pattes. C'est important pour eux.
Et alors du coup, toi, dans tes différentes expériences, alors peut-être chez mieuxplacé aujourd'hui, mais même avant, comment t'as envisagé ça? Parce qu'aujourd'hui, toi, t'es entrepreneur, donc t'as créé plusieurs boîtes.
Alors j'ai fait pas mal d'erreurs. Je pense qu'il faut se tromper beaucoup. Il faut se tromper beaucoup pour réussir à trouver la bonne équilibre entre effectivement l'humain et donc le sentiment. Il n'y a pas de sentiment dans une entreprise en théorie, mais moi j'en mets et je pense que c'est important. C'est ce qui crée le lien, le sentiment. Donc parfois j'en ai trop mis, parfois j'en ai pas assez mis. Mais effectivement, je pense que là, moi j'ai appris que maintenant les gens ils ont besoin de plusieurs choses. J'appelle ça un système, alors je l'appelle biologique. Je considère aujourd'hui que les entreprises sont un système biologique. Un système biologique a un objectif, vivre, grandir. Donc déjà, et donc je pense que chaque membre, chaque cellule de système biologique doit lui-même participer à ce système, donc ne pas être un cancer, donc les gens qui sont un cancer s'en vont, donc c'est un petit peu comme dans le corps humain, et que ce système biologique, bah, il évolue, les gens grandissent, ils grandissent pas forcément de la manière dont ils doivent grandir, donc on doit en faire des ajustements, mais c'est une évolution qui est une évolution quasiment naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture, on n'est pas dans un système pyramidal. Moi je dis souvent, mon équipe, l'équipe de la société que j'ai créée aujourd'hui, c'est un ectoplasme, c'est-à-dire qu'elle évolue en fonction des circonstances, les gens changent de job eux-mêmes, change de fonction. J'ai même des associés qui ont changé de fonction de manière autonome, se considérant comme non efficient pour l'entreprise, donc ayant changé de fonction, en disant, ben voilà, j'ai décidé de changer parce que ça collait pas, donc voilà, je me mets dans cette position-là, est-ce que ça te va? Et ils l'ont fait de manière autonome sans que j'intervienne. Donc on est dans un système où chaque collaborateur se sent suffisamment en confiance par rapport à son propre ego. Bon, il faut gérer les égos, évidemment, pour être dans un échange où il se connaît lui-même. Il a confiance dans le projet, il a confiance dans la vision. Il sait qu'il participe à un projet, donc ça c'est important, c'est les choses que moi je dois porter, mais c'est la seule chose que je porte. Dans l'organisation opérationnelle, il y a évidemment des objectifs, des KPI, parce qu'on est dans un business, donc on n'est pas non plus autrement, on est là pour gagner de l'argent, etc. Mais dans la manière de le faire, dans la manière de l'organiser, dans la manière de le sentir, dans la manière de que les gens ont besoin de s'approprier, ils s'approprient les sujets eux-mêmes. On n'est plus dans un système où c'est moi qui vais dire, bah, toi tu fais ça. Ils le font, j'arbitre. On a des arbitrages à faire dans ces organisations-là. Mais c'est ce qu'on appelle, alors moi ça me fait beaucoup rire, mais tous les bouquins qu'on voit sur l'entreprise libérée et les nouveaux de management, en fait, ça n'est plus ni moins que ça. Ça s'écrit dans les bouquins. La réalité, c'est qu'on a remis l'humain au centre, de la même qu'on a remis le client au centre des problématiques, dans toutes les problématiques aujourd'hui. Mais on remet aussi l'acteur de l'entreprise, c'est l'humain.
Et ce que tu me disais, c'est que dans un système organique, il n'y a pas une cellule où... ou un neurone qui est supérieur à un autre, en fait, ils sont tous égaux.
Ils sont tous égaux et ils respectent, par contre, ils respectent leur âge.
Ouais.
Les cellules sont plus ou moins vieilles, c'est-à-dire qu'elles ont plus ou moins d'expérience. Donc, il n'y a pas de grade. Par contre, il y a l'expérience. On reconnaît l'expérience et la compétence. Et ce qui, du coup, est très valorisant pour l'humain. C'est le contraire de ce qu'on exposait tout à l'heure. Puisque quelqu'un, moi, j'ai les collaborateurs qui sont développeurs informatiques qui ont 60 ans, qui sont managés par des gamins de 20 ans, et ça se passe extrêmement bien. Mais c'est parce que la compétence du gamin, oui, c'est des gamins.
Oui,
j'ai 45 ans.
C'est ça.
Exactement. parce que la compétence de la personne qui les pilote est largement supérieure à la compétence de cette personne-là qui est sur une reconversion. Il n'y a aucun sujet. Parce que le respect est basé sur la compétence et sur le savoir-faire. Il n'est pas basé sur l'âge, la hiérarchie. En revanche, la personne qui a 60 ans a de l'expérience sur d'autres sujets et donc amène de l'expérience sur l'écosystème. Donc on arrive à mixer et avoir des systèmes qui sont à l'opposé même de ce que moi j'étais un petit peu salarié dans ma vie, dans des grandes maisons, bah, des systèmes hyper pyramidaux où c'est l'âge qui détermine en fait ton expérience. Là on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans la compétence fait la différence.
Et alors de manière concrète, comment t'arrives là? Parce qu'en fait, je pense que quand on parle de job à la con, il y a des personnes qui nous écoutent vont facilement se retrouver. Enfin, malheureusement,
on en connaît beaucoup, ouais.
il y en a beaucoup trop qui vont se retrouver. Je pense que de l'autre côté, les managers, eux, avec la meilleure volonté du monde, ils savent pas non plus comment modifier leur mode organisationnel, toute la manière dont la boîte est gérée. Comment toi tu t'y es pris entre les erreurs et puis
la confiance et l'humain, c'est-à-dire que j'ai décidé à un moment, mais c'est une décision que j'ai prise moi, de faire confiance aux gens.
C'est marrant, il y a Georges Mohamed Chérif qui disait ça sur un podcast qui s'appelle le podcast de Pauline Léniaux qui s'appelle Le Gratin, et il parlait du bouquin qui est Heureux comme un Danois, et en fait il dit finalement le truc que je retiens le plus sur pourquoi les Danois sont beaucoup plus heureux que tous les autres pays, c'est parce qu'en fait ils ont confiance dans les uns dans les autres.
Moi j'ai confiance dans les gens à qui je travaille, je l'ai choisi pour ça. Donc il y a forcément une part de sentiment dans mon choix, parce que mon choix est un choix de compétence certes, mais à compétence à peu près égal ou même légèrement inférieur, je préfère prendre quelqu'un en qui je sens, en qui j'ai confiance, et c'est ce que j'ai appris. Ce qui n'empêche pas d'être exigeant, ça n'empêche rien, mais dans le choix, c'est le choix de la confiance. Et cette confiance-là, à partir du moment où elle est établie, elle transparaît dans toute l'organisation, C'est-à-dire que les gens ont confiance les uns dans les autres, ils se disent les choses. Ça n'empêche pas Radio Moquette, hein. Ça n'empêche pas les chamailleries, ça n'empêche pas les règlements de compte, c'est pas le sujet. Mais au moins, sur les fondamentaux même qui créent l'écosystème, tous ces gens-là sont en confiance les uns avec les autres. Parce que je leur fais confiance. Et je pense que c'est la clé de ça. La clé, c'est la confiance, d'une part, et d'autre part, la vision. Ils participent à un projet en toute connaissance de cause. On leur dit la vérité, la confiance et la transparence. Moi, je leur dis de manière très régulièrement, tous les deux ou trois mois, je les réunis, je leur dis voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait, voilà où sont les problèmes, voilà ce qui va, ce qui va pas. Donc, si on a confiance et transparence et que tous les 15 jours, on a une session où les gens me posent des questions à moi et posent des questions à leur manager de manière totalement open, donc on est en mode complètement inversé, ben on crée un écosystème où les gens se sentent confortable. On n'est jamais complètement à l'aise parce que ça reste un job, mais en tout cas, ils se sentent confortables. Ça a un effet absolument dingue que j'ai constaté à plusieurs reprises, parce qu'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a parfois quelques petites surprises. ou deux ou trois fois, j'ai senti le vent du boulet passer pas très loin de la tête. Donc j'ai failli mourir deux ou trois fois. À ce moment-là, on se retrouve avec une équipe à qui, si vous lui dites sauter par la fenêtre, il saute par la fenêtre. C'est-à-dire, c'est des gens qui vous sont fidèles à la vie et à la mort parce qu'ils ont considéré qu'ils ont pris le risque du projet avec vous et qu'ils ont envie que ça réussisse en même temps que vous et qu'ils vivent l'échec en même temps que vous, même si c'est moi en tant que patron qui porte l'échec, le risque de l'échec en tout cas. En tout cas, ils y participent. Et j'ai vécu deux ou trois expériences assez dingues où j'avais préparé tous les dossiers licenciement de mes salariés qui m'ont tous dit même pas de problème, on signe, mais on reste là.
Ah ouais.
Et tu te trouves avec une équipe que tu as licencié la seconde d'avant et qui retourne à son bureau bosser normalement, et deux fois plus. Et tu dis, ah, j'ai réussi un truc. Voilà. Et ça,
effectivement. C'est pas commun.
Non, mais ça arrivait deux fois. Et du coup, c'est là que j'ai appris, en fait, ce qui faisait les ressorts de ça. La confiance, la transparence, le fait de dire la vérité, de donner la vision. Donc, les seules choses sur lesquelles moi je me bats au quotidien pour l'équipe, c'est leur donner la vision et sécuriser les risques intrinsèques d'une entreprise, les finances, le développement de la boîte, les actionnaires, enfin tout ce qui fait partie des joyeusetés des grosses startups qui grossissent très vite. Et leur objectif à eux, c'est d'exécuter ma vision. Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, ça roule tout seul. Mais ça roule tout seul au point où je ne suis quasiment pas au bureau. Ma boîte est basée à Bordeaux et je passe 4 jours par semaine à Paris.
D'accord.
Elle vit toute seule. Et je ne fais que passer le lundi, vérifier que tout se passe bien, valider un certain nombre de points, quand il y a des points stratégiques, évidemment, je participe. Mais globalement, la boîte fonctionne, elle tourne. Elle tourne en temps, l'ectoplasme ne bouge pas forcément dans le sens dans lequel je voudrais qu'il bouge, donc je le réajuste. Mais il n'y a pas d'ajustement violent, on n'est pas là-dedans. Et les gens comprennent ces réajustements-là, c'est ça qui est incroyable.
Et du coup, est-ce que tu penses plutôt que le fait d'être trop présent, comme ça peut être le cas de certains entrepreneurs, nuit finalement à ce système? C'est-à-dire, si tu étais plus là, est-ce que les gens prendraient moins de responsabilités et du coup se sentiraient moins en confiance et...
Oui, parce que c'est toujours un peu le patron, le fondateur, dans des boîtes aussi qui grossissent très vite. On était 6 il y a un an et demi, on est 30, donc on aussi très vite, on a levé beaucoup d'argent, bref. Il y a forcément une notion de le visionnaire, machin, etc. Et c'est forcément intimidant. Et finalement, le détachement est une bonne manière. Elle est bonne pour moi, parce que ça me permet de me concentrer sur les choses essentielles. Quand j'ai une discussion avec mes associés ou les managers de l'équipe sur un sujet, c'est un sujet essentiel qu'on traite et on peut le traiter à distance. Et c'est bien pour les collaborateurs parce que ça les fait monter, ça les fait grimper très vite en termes de compétences. Après, chacun fait comme il le sent. J'ai des associés avec qui j'ai monté Dan Serfati et qui j'ai monté Viadeo, c'est plutôt un hands-on. Ils ne sauraient pas faire ça, ce que je fais moi. Ils ne sauraient pas complètement déléguer l'opérationnel parce que c'est quelqu'un qui doit s'approprier l'opérationnel pour bien comprendre comment ça marche. Moi, je suis plutôt dans une vision opérationnelle. On est plutôt ce que j'appelle les CEO à l'américaine. Ils portent la vision, ils gèrent la relation avec les actionnaires. Ils gardent la main sur le produit, sur le service, pour s'assurer qu'ils sont alignés. Mais le reste, l'implémentation, à partir du moment où elle est alignée sur le plan stratégique sur lequel on s'est mis d'accord, c'est pas lui de le faire. Par contre, je le fais en faisant en sorte que les collaborateurs se sentent impliqués dedans. Ils participent à ça, ils contribuent. Et d'ailleurs, ils améliorent des idées que j'ai. C'est ça que je trouve ça très bon. C'est que moi, je donne l'idée. Et parfois, celle d'un de mes associés ou quelqu'un qui a travaillé sur le sujet, c'est une bonne idée, mais on devrait peut-être le faire comme ça et c'est meilleur.
Mais il y a aussi cette idée de se dire je vais m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi.
Toujours.
Je pense.
Ah mais toujours. Mais c'est ce qui est très difficile. Une des grandes réussites de ce qu'on expose là, c'est probablement aussi d'être capable de se connaître soi-même, humainement. C'est-à-dire qu'il faut avoir testé ses limites. Moi, ça fait quelques boîtes que je monte. J'ai testé mes limites hein, dans tous les sens du terme, hein. Bien, pas bien. Et donc dans ce sens-là, je pense que je me connaissant très bien moi-même, je suis capable de connaître mes propres limites. Et il y a les choix, je dis, je ne sais pas faire. Et en tant que patron, ça fait toujours bizarre pour les collaborateurs que leur patron dise « je ne sais pas faire ».
En France en particulier.
Ouais, en particulier en France. Mmh. Et je pense que c'est un grand facteur de génération de confiance pour eux. Mmh. Parce que le fait que le patron soit capable de le dire, ça leur permet eux de le dire aussi en toute liberté. Mmh. « Je ne sais pas faire ». Et du coup, on gagne du temps. On gagne du temps parce que les réunions ne sont pas interminables. On cherche le responsable de la réunion. Oui, c'est moi qui fais une connerie. Ok, t'as fait une connerie. C'est pas grave, on passe à autre chose. Donc, on gagne du temps dans la fluidité de l'information. Et du coup, l'entreprise est plus agile, plus efficace. Ça fonctionne mieux.
Et alors du coup, j'ai une question qui revient un petit peu au début de la conversation qu'on avait, mais il y a pas mal de gens qui disent, et j'en fais partie d'ailleurs, que le 21e siècle, c'est vraiment le grand retour de l'émotion. Et que l'un des enjeux pour les marques, je pense, c'est de savoir quelle place tu donnes à l'émotion en interne et en externe. Toi, c'est quoi la place que tu donnes à l'émotion en interne? C'est-à-dire qu'à quel moment tu permets aux gens d'exprimer leurs émotions, d'être finalement des humains, parce que tu parlais de l'humain au tout début, et je pense que c'est vraiment...
Oui, c'est l'humain et l'émotion, pour moi ça va avec. Alors déjà, moi je mets beaucoup d'émotion dans ce que je fais au quotidien. Je considère que ça passe beaucoup par la voix, je parle aux gens de manière très émotive, et quand j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer, j'ai des larmes aux yeux, hein, parce que c'est humainement difficile, mais il n'y a pas enfin des mauvaises nouvelles à annoncer. Donc il y a beaucoup, je pense, d'émotion dans la relation qu'on a avec les gens. C'est pas toujours, le miroir est pas toujours là, effectivement. Les gens n'ont pas l'habitude d'être dans l'émotion au quotidien, et ils ont toujours un peu peur de mélanger, là, pour le coup, le perso et le pro. Parce qu'ils ont l'impression que l'émotion n'est que dans le perso. La méthode, probablement, pour le faire, c'est souvent le rire. On se marre beaucoup. On essaie de rire beaucoup, mais c'est important, hein.
C'est essentiel.
On essaie de rire beaucoup dans la boîte. On essaie de les sortir beaucoup. Moi, j'essaie de sortir beaucoup aussi les équipes de l'opérationnel. En les sortant, bah demain, j'emmène tout le monde dans un restaurant qu'on a réservé entièrement le restaurant pour faire les imbéciles pendant une soirée. Et on met beaucoup de fun. C'est probablement le bon moyen. L'émotion, la meilleure émotion, la plus simple à générer, c'est le rire. C'est la plus simple, en fait, à gérer. Et quand on est une équipe qui est assez jeune, il y a quelques vieux dont on parlait tout à l'heure, dont moi, mais il y a surtout beaucoup de jeunes, c'est assez facile à gérer. C'est assez facile à générer. Donc, c'est essentiellement par le rire.
Et alors, c'est marrant parce que c'est vrai que quand on pense à mieux placer, c'est une voix qui est dans la finance. Donc la finance, c'est quand même le secteur dans lequel tu te dis, enfin a priori...
C'est pas fun.
Que c'est pas fun.
Non, t'as pas envie de rire. T'as pas envie de rire. En théorie, t'as pas envie de rire.
C'est ça. Et alors que là, c'est le cas. Enfin, en tout cas...
C'est ce que je dis souvent, c'est une des maximes de la boîte. C'est pas parce qu'on veut un métier sérieux qu'on doit se prendre au sérieux. On le fait sérieusement, c'est notre métier. On s'occupe de l'épargne des gens le mieux possible. Mais en l'occurrence, nous-mêmes, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux en le faisant. On est obligé en plus de le prendre avec le plus de recul possible, parce que c'est l'argent, c'est un sujet froid. C'est un sujet froid dans l'absolu, mais c'est un sujet qui est très chaud pour nos clients, parce que c'est un sujet sur lequel c'est leur épargne, c'est leur sous, c'est leurs économies. Donc nos clients sont prioritaires, eux ils y mettent de l'émotion et de l'affect à cet argent-là, parce qu'ils ont payé des impôts dessus, ils l'ont sué sang et eau pour l'avoir. Et moi je le répète systématiquement à mes collaborateurs, je dis attention, cet argent, faut faire attention à ça, quoi.
C'est comme si c'était le tien un peu.
Exactement, c'est un peu comme si c'était le mien. Et moi, j'ai pas envie qu'on me l'abîme, cet argent. J'ai pas envie qu'on me le perde, qu'on fasse des bêtises avec. Donc, on fait très attention à ça. Mais on y met une touche de, on essaie de le faire un peu, de manière un peu sympathique. Avec le sourire.
Et pour revenir à l'humain, est-ce que le fait que les gens veuillent prendre des responsabilités, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est intrinsèquement humain? Ou est-ce que c'est, lié à des personnes à qui tu fais confiance, parce que il y a aussi ce jeu-là, c'est-à-dire que bien sûr, il y a toi la capacité de donner confiance. Et alors, ce que tu disais, c'est que même si vous n'êtes pas dans un système pyramidal, il y a quand même des niveaux hiérarchiques, de ce que je comprends.
Il y a une organisation avec des seniorités.
D'accord.
Il y a des seniorités.
D'accord.
Mais qui est totalement improbable, parce que les seniors qui sont pas à leur place de seniors. Et je réponds à ta question. Je pense fondamentalement que le fait d'avoir envie de progresser dans l'entreprise n'a rien à voir avec l'entreprise. Ça a à voir avec les gens. Je parlais tout à l'heure de Michel, dont le prénom est Mitch, il se reconnaîtra, qui est lead dev aujourd'hui, donc il est développeur informatique, qui a un peu plus de 50 ans, qui a fait tous les métiers dans l'informatique. Il était manager, chef d'équipe, chef de projet, il a fait le développement, il est full stack, il a tout vu. Il fait ça depuis 35 ans. Lui, il est heureux en codant. Il a aucune envie, et il l'a dit il y a 15 ans, il a aucune envie de prendre des responsabilités autres que le fait que de coder.
Voilà. Fine.
Et il est très content comme ça. Il nous sert de canari parce qu'il connaît tout le monde. Donc dès qu'il y a un problème dans la boîte, évidemment, c'est lui qui nous sert de relais. Mais c'est top et il nous apporte beaucoup, beaucoup plus que si on l'avait poussé en responsabilité dans une organisation un peu standard, compte tenu de ton expérience, compte tenu de ton âge. Je te colle chef de projet, etc. Il n'aurait pas été confortable. Donc on ne le fait pas, on ne le pousse pas. Il n'y a aucune raison de le pousser sur un poste dont il n'a pas envie.
Et ce que tu me disais, du coup, c'est qu'il n'y a jamais personne qui est parti de la boîte, au final.
Non.
C'est assez fou, aussi.
Enfin, mais c'est la troisième boîte, enfin, c'est la septième boîte que je monte, mais c'est la quatrième dans laquelle je suis patron. Je n'ai jamais perdu aucun collaborateur. C'est fou. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai expérimenté tout à l'heure quand je disais c'est l'expérience, c'est qu'à force de trouver les codes, on arrive à comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant, j'arrive à doser correctement, mais ça n'a pas été le cas. Hein. Parce que des fois, ça m'empêchait de dormir, parce que quand j'avais une mauvaise avancée, ça me rendrait triste. Bref, j'arrive à trouver maintenant, après 20 ans d'expérience, le bon équilibre. Et c'est un peu ce qu'on écrit dans les bouquins, en fait, ce fameux trouver ce bon équilibre entre un peu de dureté, un peu de gentillesse, un peu d'émotion, un peu d'objectif. Voilà, c'est juste ça. La manette est compliquée à trouver, il faut la trouver le bon rythme.
Et du coup, tu donnerais quoi comme conseil? Alors, peut-être aux employés, enfin aux employés, aux gens qui ne sont pas entrepreneurs et tout le monde n'est pas entrepreneur.
Ah non, surtout pas, ouais.
Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Et seconde question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entrepreneurs pour mieux gérer leur boîte, justement?
Alors, entrepreneur, mieux gérer sa boîte, c'est compliqué.
Enfin,
parce
pas
que
gérer,
pères,
mais
en tout cas gérer cet
aspect-là.
Il faut y voir, je pense qu'il faut y voir deux vertus à écouter ses émotions personnelles, à se connaître soi-même. La première vertu, c'est que, alors on va parler au cerveau actionnaire, les entrepreneurs, c'est extrêmement créateur de valeur. Pour une raison très simple, pour deux raisons. La première, tu l'évoquais tout à l'heure, on perd pas de collaborateurs. Ou s'ils s'en vont, ils s'en vont pour les bonnes raisons. Ou s'ils ne restent pas, c'est pour les bonnes raisons. S'ils collent pas à ce système-là. Moi, j'ai une collaboratrice qui est arrivée, qui restait 2 mois, qui me dit, je me sens pas bien. Effectivement, elle venait dans un univers hyper pyramidal, hyper challenging, où les gens se battaient pour les postes. Mais il n'y a pas de bataille ici. Hein. Donc elle n'est pas restée. Par contre, j'ai pas de churn, j'ai pas de collaborateurs qui s'en vont. Donc je ne perds pas d'argent à recruter les gens, j'ai pas de trou dans ma raquette, dans l'organisation, et je peux grossir. L'autre avantage, c'est que je recrute, je n'ai aucun problème pour recruter. Y compris dans les postes techniques ultra, ultra demandés. C'est-à-dire que j'arrive à recruter sans effort. Je mets une annonce pour recruter un développeur Python ou un développeur React, qui est le truc rarissime. J'ai 30 offres, j'ai 30 personnes qui m'envoient leur CV pour venir bosser. Pas parce que ma boîte est peut-être plus sympa que les autres, mais c'est parce qu'ils savent, par leurs copains, que le mode de fonctionnement de la boîte correspond à leur culture. Donc ça a deux effets pour le message que je fais passer aux entrepreneurs, c'est écouter vos émotions, parce que si ça fonctionne, vous allez résoudre le problème majeur que vous avez tous quand vous grossissez, c'est que passer de 6 à 30 sans quasiment dépenser d'argent auprès de chasseurs de tête, c'est juste rarissime. Et je peux continuer à développer, et je peux continuer à recruter si je veux à l'infini comme ça. Parce que les nouveaux arrivants se sentent bien onboardés, parce qu'ils sont bien, parce que les anciens les accompagnent. Il y a une espèce d'un peu d'émulation. Ils sont l'impression d'être dans une tribu, c'est une famille. Donc ça, ça a beaucoup de valeur pour l'entrepreneur. Et le conseil que je donnerais peut-être aux employés qui sont dans ce genre d'organisation, alors s'ils ne le sont pas, et s'ils sont malheureux, cherchez une organisation comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Mon petit frère, que j'aime fort, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire Grégoire, il est pas à l'aise dans une organisation comme celle que je monte. Parce que lui, il est bien dans une organisation hyper structurée, hyper processée, il est dans une grande banque et ça lui va bien. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Donc je dirais juste aux collaborateurs qui ne sont pas bien dans ces organisations-là, cherchez-vous une boîte. Et il y a même des grosses boîtes qui fonctionnent comme ça. Je connais des grosses SS2I qui fonctionnent en type entreprise libérée du même type, qui tiennent compte du coup de cet aspect humain de ses émotions. Donc il faut juste trouver le bon endroit, trouver la bonne tribu.
Okay. C'est pas si simple, hein, parce que je pense que il y a aussi, moi j'ai vu pas mal de boîtes qui se disent ou qui disent mettre l'humain au centre, les émotions, etc. Et puis en fait, tu te rends compte que dès que tu grattes un tout petit peu, ben malgré Glassdoor, on pourrait parler de Glassdoor, etc. Mais ben, tu te rends compte que c'est pas vraiment le cas.
Si tu le mets en avant, c'est que tu le fais pas.
Oui.
Pareil. Si ça devient un argument marketing, que tu le fais pas.
Celui qui dit y est pas.
Ouais. C'est exactement ça. Ben, c'est le principe. Hein. Si t'as besoin de l'exprimer, c'est qu'a priori, c'est pas totalement
c'est
inné.
Qu'il y a un problème.
C'est qu'il y a un problème. Normalement, ça l'est ou ça l'est pas. Et d'ailleurs, je me suis jamais rendu compte moi-même du fait que c'était le cas. C'est plutôt quelqu'un qui m'a dit, mais ce que tu fais là, c'est ce qu'on essaie de tous faire dans l'entreprise libérée. J'ai dit, bah bon, je savais même pas.
Ah, c'est intéressant. Et alors, du coup, ce podcast s'appelle Vlan.
Ouais.
À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
à qui je vais claquer la porte aujourd'hui? Je vais claquer la porte aux grandes entreprises.
Ah oui?
Ouais. Qui n'ont toujours pas compris que si elles continuent comme ça, elles vont juste perdre pied et perdre leurs clients. C'est ce que tu disais tout à l'heure, moi je me bats tous les jours dans la finance. La finance, on est dans un univers où on est plutôt chez l'usager plutôt que chez le client. Hein. Mmh. SNCF des années 70 où on a le droit de prendre on a le droit de placer son argent chez vous, mais on vous garde votre argent, mais à nos conditions. Hein. Mmh. Ça se passe un peu comme ça. Mais c'est valable pour toutes les grandes entreprises qui n'ont toujours pas compris qu'aujourd'hui, c'est le client qui est maître de tout. Mmh. Parce que tu évoquais sur les marques. Hein, qu'il a accès à toute l'information, à tout moment, sur les produits, l'entreprise, son fonctionnement, et un glace d'or. Enfin, voilà, tout est accessible. Et qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne continuent pas à le voir.
Ouais, ils prennent un peu les gens pour des cons.
Voilà. Et donc à un moment, toutes ces grosses boîtes-là, elles se remettent en cause. Certaines y arrivent. Je me marre beaucoup en pensant à Goldman Sachs qui a enlevé ses cravates et qui commence à mettre des sweatshirts. C'est un peu du marketing, mais ils y essayent en tout cas. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'ils comprennent
que c'est un peu gimmick, en l'occurrence.
Ça devient un peu ridicule. Mais voilà, toutes ces grosses boîtes-là, moi, j'étais un peu salarié dans ces grosses boîtes-là. Je me dis, qu'est-ce qu'elles deviennent demain, quoi.
Voilà. Top. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.